Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde, retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Pyongyang en Corée du Nord, au cœur de tous les dangers, risque de guerre ou pas. Moscou, première rencontre entre Poutine et un haut responsable américain depuis l'arrivée de Donald Trump, rencontre glaciale. Washington, capitale des reniements, capitale de toutes les promesses qu'on remballe. Et puis Ankara, est-ce que le président Erdogan va réussir son référendum qui lui donnerait des pleins pouvoirs? C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec François Hesbourg. Bonjour François.
Bonjour.
Conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et on le rappelle donc, comment perdre la guerre contre le terrorisme. Oui, terrorisme toujours d'actualité. On y reviendra évidemment tout à l'heure à propos donc, eh bien, de ces attentats en Égypte. Jean-Christophe Buisson, bonjour.
Bonjour.
Directeur adjoint du Figaro Magazine, auteur de 1917, l'année qui a changé le monde. J'espère qu'on ne parlera pas de 2017, l'année qui a changé le monde. C'est vrai, une semaine complètement folle sur la planète, faite de violence, d'inquiétude, de menaces, de reniements. La Corée du Nord, bien sûr, en ce week-end du 105e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, week-end de tous les dangers. La Corée du Nord, qui depuis le début de l'année accélère son programme balistique nucléaire face à un Donald Trump qui toute la semaine a haussé le ton. Le problème nord-coréen sera traité.
La Corée du Nord est un problème et le problème doit être traité. Je dirais ceci, je trouve que la Chine a travaillé très dur. J'ai vraiment appris à apprécier et respecter le président Xi.
Voilà, Donald Trump. François Hesbourg, on a face à face quand même deux personnalités, deux hommes impulsifs, imprévisibles, hein, Trump. Kim Jong-un, comment ça se termine cette histoire ?
Mais d'abord, il se ressemble à certains égards, mais pas au niveau de l'imprévisibilité. Le responsable de la Corée du Nord est parfaitement prévisible. La Corée du Nord poursuit son programme nucléaire et balistique depuis des années et des années. Trump et d'autres responsables, bien sûr, de la planète, essayent de faire dévier les Coréens du Nord de leur trajectoire. On voudrait un peu plus d'imprévisibilité en Corée du Nord. Et ce qui est prévisible, c'est la poursuite des essais nucléaires, balistiques, le cas échéant, leur utilisation en cas de conflit. Et où est-ce qu'on en est ?
Les Américains ont quand même envoyé le week-end dernier depuis Singapour un porte-avions avec toute l'armada tout autour à titre de précaution. Mais précaution de quoi ? Pour faire quoi, François ?
Trump a expliqué il y a une grosse quinzaine de jours que si la Chine n'arrivait pas à s'occuper de la Corée du Nord, les États-Unis, eux, se débrouilleraient pour le faire. Premier élément. Et l'attaque en Syrie s'interprète en partie et à travers ce prisme-là, hein, c'est une espèce d'avertissement indirect. Et deuxième chose, les Chinois prennent très au sérieux cette montée du ton et de la présence américaine. Et le journal le plus proche de l'armée chinoise, la version anglaise, le Global Times, a publié le 12 avril un éditorial tout à fait étonnant par rapport à ce qui s'est passé dans le temps, à savoir que, écoutez, chers amis nord-coréens, ça suffit comme ça, et vous avez vraiment agacé les Américains. Les Américains vont vous en foutre plein la figure, et en fait, il n'y aura personne pour vous aider. Donc, numérotez vos abatis si vous continuez comme ça. Autre signal chinois, la Chine se désolidarise de la Russie au Conseil de sécurité lors du vote sur la Syrie. Pour la première fois depuis le début de la crise syrienne, il y a 6 ans, les Chinois n'accompagnent pas les Russes dans leur veto systématique.
Ils se sont abstenus.
Les Russes se sont retrouvés, pour la première fois, sur les 15 membres du Conseil de sécurité, les Russes se retrouvent tout seuls. C'est un climat dans lequel, visiblement, Trump arrive à exploiter à son avantage mais avec évidemment des risques absolument énormes. Trump, vous l'avez rappelé, est imprévisible. Il est en tout état de cause impulsif. Dieu seul sait ce qui se passerait si les Américains frappaient la Corée du Nord. Séoul, la capitale de la Corée du Sud, 12 millions d'habitants, est à 45 kilomètres
de la frontière
de la frontière avec la Corée du Nord,
c'est bien portée
de l'artillerie et des fusées nord-coréennes.
Personne ne sortira vainqueur d'un conflit, disait Pékin vendredi matin également. La Russie très inquiète qui appelait à la retenue. C'est vrai, Jean-Christophe Buisson, la Corée du Nord, c'est pas la Syrie. Une intervention, quelle qu'elle soit, elle ne serait pas sans conséquences dans la région, avec Japon, Corée du Sud, Russie, Chine et dans l'ensemble du monde, bien sûr.
C'est à mon avis pour ça que ça n'arrivera pas. Il faut jamais sous-estimer chez les chefs d'État le fait qu'ils font souvent de la politique intérieure quand ils prétendent faire des discours de politique étrangère. En politique intérieure nord-coréenne, on sait très bien qu'il y a toujours une montée des tensions dès qu'il y a un événement au sein du pays important, jugé important. Le 105e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, vous l'avez dit en introduction, est un événement crucial pour la Corée du Nord. Il faut marquer cet événement d'une manière ou d'une autre. Et à chaque fois, il se trouve que je suis allé en Corée du Nord il y a quelques années, j'ai vraiment remarqué ça, à chaque fois qu'il y a un événement de ce type intérieur qui est important pour ressouder la nation nord-coréenne, que ce soit Kim Jong-un ou son père ou son grand-père, on montre ses muscles, on montre les dents vis-à-vis de l'ennemi américain. Le problème, c'est que, comme l'a dit François Hesbourg, Donald Trump, il ne fonctionne pas comme les chefs d'État américains habituels. C'est-à-dire que c'est d'abord un chef d'entreprise, un homme d'affaires, il n'a pas appris la politique au sein du Parti républicain. Et lui, il raisonne en deal, en négociation. Et ça, il ne comprend pas ce discours-là. Donc lui, il dit, les Nord-Coréens sont en problème, on va le régler. Comment on règle un problème avec un client, un fournisseur,
un syndicat. Donc,
il y a quand même des gens autour de lui, à commencer par son gendre Kouchner, qui sont quand même là pour le calmer, Kouchner, mais pour lui dire que tout ça ne mérite peut-être pas. Et pour terminer, personne n'a intérêt à ce que la Corée du Nord sorte de son état actuel. Ni la Corée du Sud, évidemment, qui ne pourrait pas digérer un pays comme la Corée du Nord, comme l'a fait l'Allemagne.
C'est pas la RDA, non, c'est sûr. Ouais.
Ni le Japon, qui évidemment n'a pas intérêt à ce que ça bouge dans la région, ni les Américains, qui ont besoin d'un grand ennemi comme ça aussi dans la région, et a fortiori les Chinois
qui ont pas envie d'avoir
des mines de Corée du Nord en veux-tu, en voilà, et qui n'ont pas intérêt à que tout ça soit déstabilisé, et que la
Corée du Nord... Au profit des Américains,
exactement, au profit des Américains.
François Hesbourg.
Tout ça est vrai, mais on en revient toujours à cet élément d'imprévisibilité apporté par le facteur nouveau qu'est Trump. Et un autre président américain se serait inscrit dans la continuité que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que la Corée du Nord aurait éventuellement mis au point sa force de dissuasion. Les responsables nord-coréens, et moi j'en ai vu récemment quelques-uns lors d'entretiens informels dans un pays neutre européen, entre différentes parties prenantes. Et ces responsables nord-coréens ont pleine confiance dans la façon dont se déroule leur programme. Ils savent aussi qu'il y a encore quelques étapes qu'il faut franchir. C'est des essais nucléaires supplémentaires et quelques essais balistiques supplémentaires. Et ne pas procéder à ces essais poserait vraisemblablement des problèmes de politique intérieure en Corée du Nord, tout à fait massif. Et le problème pour Trump, c'est qu'il s'est donné une obligation de résultat. Et si le résultat n'est pas au rendez-vous, il fait quoi ? Il se retire dans sa niche en disant « Oh ben non, tout ça, c'était pour rire
». Quoique, on est dans une période quand même avec quelques reniements. On va voir justement, vous parliez de la Chine tout à l'heure, François Hesbourg, on se demande si la Chine ou pas a un levier ou pas sur la Corée du Nord. Alors justement, est-ce qu'il y a eu un deal, comme Donald Trump a su en faire autrefois quand il était homme d'affaires, avec Xi Jinping ? Un peu « Aide-moi sur la Corée du Nord et je ne te menace plus de guerre commerciale ». Que disait le président américain dans le Wall Street Journal en fin de semaine ? Non, la Chine ne manipule pas sa monnaie. On avait entendu exactement le contraire depuis son arrivée, évidemment, pendant la campagne. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Donald Trump est un homme de la télé-réalité. C'est un homme de la post-vérité. La parole est parfaitement fongible. elle est parfaitement interchangeable. Et c'est pas parce que vous avez dit un truc un jour que vous n'allez pas expliquer exactement le contraire un autre jour, si ça vous arrange. Et c'est comme la frappe en série en 2013. Et Trump envoie un tweetos pour dénoncer la possibilité que Obama frappe la Syrie après l'utilisation de l'arme chimique.
Il n'avait pas
et
fait,
en 2017, voilà. Trump fait exactement ce qu'il dénonçait chez son prédécesseur.
Mais il y a eu un accord ou pas, Xi Jinping, Trump, là-dessus? Règle-moi la Corée, puis j'arrête de t'embêter.
Les Chinois ne sont pas... c'est pas une civilisation à mèche courte. Les Chinois ne vont pas réagir instantanément à la perte de face que Trump leur a fait subir lors de la visite officielle de Xi Jinping en Floride, où grosso modo, Trump lui dit après le dessert...
En fait, j'ai attaqué la Syrie.
Ce soir, j'attaque la Syrie, et tu es installé aux premières loges, Coco, et tu vois que j'en ai des biscottos. Et ça se paiera. Et ça se paiera cher. Mais ça ne se paiera pas tout de suite. La vengeance est un plat qui se mange très progressivement. Et Trump, effectivement, il va expliquer que la monnaie chinoise n'est pas manipulée à la baisse, parce qu'effectivement, depuis 2 ans, la monnaie chinoise est en fait manipulée à la hausse. Et pour le citoyen américain lambda, franchement, c'est sans importance. Ce qui est important, c'est qu'au moment des prochaines élections législatives aux États-Unis, Trump puisse dire j'ai procédé au rapatriement d'une partie de la chaîne de valeur américaine de Chine vers les US.
Si c'est si facile, ouais. Oui. Jean-Christophe Buisson, le Figmag.
Ce qui est nouveau chez Trump, par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'il tente de régler plusieurs problèmes en même temps. Souvent, ses prédécesseurs réglaient le Moyen-Orient un jour, la Russie le lendemain, la Chine le surlendemain. Lui, il s'est mis avec la Syrie, avec la Corée du Nord, avec la Chine, avec la Russie.
Avec l'OTAN aussi, on va en parler dans un mois à peu près, que le sommet de l'OTAN.
Donc ça, c'est ce qu'il y a de nouveau chez lui. Mais ce en quoi il n'est pas atypique, et c'est là où je voudrais revenir, évidemment, la Chine est une situation à mèche longue, mais les États-Unis, il n'est pas atypique en ce sens que, souvenez-vous, il y a exactement 100 ans, le président Wilson, démocrate, est réélu en novembre 1916 sur la promesse que les États-Unis n'entreront jamais
en guerre
en Europe.
Et en 17.
En avril 1917, il entre en guerre. Pourquoi ? Pour une raison morale. Parce que les Allemands ont lancé ce qu'on appelait la guerre sous-marine à outrance, où ils détruisent des bateaux civils.
Ouh, voilà, bien sûr.
Donc, effet moral, il est submergé d'émotions des enfants qui meurent, etc. Il réagit. Trump a fait la même
chose. C'est pareil avec les images des enfants gazés.
America First, on ne s'occupe plus, on se retire des affaires du monde. Il voit ses enfants gazés en Syrie, il est bouleversé.
Et bombarde.
Il bombarde la Syrie, il envoie 59 missiles. Donc, le temps long existe aussi aux États-Unis, même s'il est moins long, je vous l'accorde, que la Chine.
Justement, tiens, on rappelle 1917, l'année qui a changé le monde. Alors justement, la Syrie est au cœur de la rencontre, première rencontre en haut lieu à Moscou, donc entre Rex Tillerson, le chef de la diplomatie, c'était mercredi, dans un premier temps avec Sergueï Lavrov, son homologue, et puis finalement, en fin de journée avec Poutine. Tout ça, évidemment, très glacial. Oui, on parlait de revirement. Vous en souvenez, pendant la campagne, c'était l'époque où il fallait se rabibocher avec la Russie, la normalisation des relations avec les deux pays. On en est loin. Qu'est-ce qui se passe là entre les deux pays, entre Russie et États-Unis ? C'est la Syrie, blocage sur Bachar al-Assad, sur l'intervention militaire américaine ?
Non, mais dans l'univers poutinien, il n'y a de place que pour un seul Poutine. Et Trump agit comme Poutine.
Ouais.
Mais c'est insupportable.
Ouais.
Et il emploie la force de façon très clausewitzienne, très calibrée, comme les Russes l'ont fait en Syrie, et pour atteindre un objectif spécifique, défini. Mais ça se fait pas. Il n'y a que moi qui puisse faire ça. Pas vous, pas les Occidentaux. Et je pense que les Russes ont été épouvantablement vexés par la leçon de choses qui a été faite. Les Américains reviennent au centre du jeu au Levant, qu'ils avaient perdu en 2013 avec le refus d'Obama de respecter sa propre ligne rouge. Et ça ne veut pas dire que les Américains en font grand-chose. Ça, c'est autre chose. Par ailleurs, si Poutine avait été vraiment fâché, s'il avait été en mesure d'exprimer sa mauvaise humeur, il n'aurait pas reçu Tillerson.
Oui, c'est ça. Oui, ça c'est.
Et il le reçoit quand même.
Il y a eu 5 heures de négo avec discussion avec Lavrov, donc c'est quand même pas mal. Et ensuite discussion avec Poutine.
Et le paradoxe dans tout ça, c'est que Poutine et Trump, maintenant, ils peuvent se parler. Trump, jusque-là, était tellement suspect d'être, comment dire, en Amérique, le président mandchourien, des formules un peu étranges, mais ça vient du nom d'un livre qui était publié pendant les années 50, où les Coréens du Nord auraient fait prisonnier un soldat américain, il le reprogramme et le type devient président des États-Unis et il le contrôle à distance. C'est ce qu'on appelle le Manchurian Candidate. Alors Trump était présenté comme Manchurian President.
De Poutine,
Et ben là, c'est fini. Trump ne peut pas être suspect de complaisance excessive vis-à-vis de Poutine. Donc, oui, les Russes sont vexés. Oui, les Russes ont été pris à leur propre jeu. Non, les États-Unis et la Russie ne vont pas se faire la guerre.
Ouais. À propos de l'attaque au gaz, que disait Poutine à la télé en milieu de semaine, soit le bombardement de l'aviation syrienne a touché un entrepôt des rebelles, soit l'attaque a été purement et simplement inventée. Oui, c'est un peu d'ailleurs ce que disait Bachar al-Assad dans une interview à l'AFP cette semaine. Il y voit un coup des Occidentaux.
Notre impression, c'est que l'Occident et les États-Unis en particulier sont complices des terroristes. Ce sont eux qui ont inventé toute cette histoire pour servir de prétexte à leur bombardement. Nous n'avons jamais ordonné une telle attaque. Nous n'avons pas d'armes chimiques, nous avons fait détruire tout notre arsenal il y a 3 ans, et même si nous en avions, on ne l'utiliserait pas. Nous n'avons jamais utilisé nos armes chimiques dans toute notre histoire.
Bon, je voulais qu'on entende Bachar al-Assad, le président donc de la Syrie, Jean-Christophe Buisson.
Politique intérieure encore, effectivement. Voilà. Trump a besoin de se dédouaner de l'accusation qui court quand même depuis son élection d'avoir été aidé par les Russes. Cette attaque de la Syrie tombe à pic pour montrer, regardez, je ne dépends pas des Russes. N'oublions jamais, pardon de revenir, ce n'est pas obsessionnel chez moi, mais sur le fait que Trump est un chef d'entreprise. Il a écrit un livre qui s'appelle « The Art of the Deal », où il explique que quand vous êtes en négociation, vous arrivez avec votre interlocuteur, vous arrivez, Fabrice, bonjour, nous avons un contrat à négocier. Vous êtes tout blanc, Fabrice, qu'est-ce qui... Mais vous voulez qu'on reporte là, voilà. Maintenant, on peut commencer le deal. Voilà ce qu'il écrit dans son livre. Et donc, ce bombardement, c'est aussi par rapport aux Russes, dont il sait que son secrétaire d'État va venir à Moscou. Ouais. 2 jours avant, il y a ce bombardement, c'est pour dire aux Russes, moi, je suis plus capable de faire ça. Maintenant, on peut discuter. Ouais. C'est exactement ce que dit François Zemmour. Il n'y aura pas de guerre entre les États-Unis et la Russie. Simplement, il a posé un jalon en disant « Je ne suis pas Obama ». Et il fait encore la politique intérieure en disant « Je ne suis pas Obama qui dit que quand la ligne rouge est franchie, j'entre en guerre. La ligne rouge est franchie, il fait rien du tout.
Voilà. »
Ben moi, j'y vais. Juste avant que la ligne rouge soit franchie ou juste au moment où elle est franchie, j'interviens tout de suite pour mettre le haut là. Et là, il fait la politique intérieure encore une fois. Il se dédouane de l'accusation d'avoir été financé ou aidé par les Russes, d'une part. Et ensuite, il montre que Obama était moins bon que lui sur ce domaine-là. Il gagne sur tous les tableaux.
François Zemmour, fantaisiste évidemment ce que disait Bachar al-Assad, bien sûr, mensonger.
Le problème c'est qu'il n'est pas d'accord avec les Russes. Les Russes ont dit que c'était l'aviation syrienne qui avait bombardé. Alors dans la version russe, c'est ils auraient bombardé
un entrepôt voilà,
dans lequel, par malheur, il se serait trouvé des armes chimiques. Le problème c'est que les images satellitaires qui sont demeurant accessibles au grand public de nos jours, ce n'est plus l'apanage des seuls services de renseignement. Il n'y a pas l'ombre de quelque chose qui ressemble à un entrepôt dans la région où a eu lieu le bombardement. Mais en tout état de cause, Bachar et les Russes n'ont pas accordé leur violon dans cette affaire.
La seule inconnue, à mon sens, c'est est-ce qu'il y a à côté de Bachar une frange de militaires qui peut avoir intérêt à durcir le ton sans forcément avoir l'aval de Bachar al-Assad.
À quelle fin pour faire en sorte qu'il soit sorti, qu'il soit dégagé,
Non, pour bien montrer qu'aujourd'hui la Syrie ne tient que et le président Bachar al-Assad et ceux qui l'aident à diriger tiennent par la terreur le pays et que la Russie ne doit pas les lâcher, sinon c'est le chaos.
À moins que Bachar al-Assad ait voulu montrer qu'il était intouchable ou pas, François Hasbourg.
Non, il faut pas se tromper dans le sens des questions que l'on peut poser. C'est une chose que de poser la question pourquoi il a fait ça. Mm-hmm. C'en est une autre que de demander pourquoi il ne l'aurait pas fait. Mettez-vous à la place de Bachar un instant. Vous êtes en train de gagner la guerre. Parce que depuis l'automne
après
dernier,
Alèche,
il est en train de gagner la guerre. Mais c'est long, c'est dur. Son armée est complètement atomisée, exsangue.
6 ans de guerre.
Il tient grâce aux Russes, aux Iraniens, au Hezbollah. Donc, le type, il est pressé. Par ailleurs, il y a Trump qui explique, il y a une quinzaine de jours, et les États-Unis, la question de savoir qui est au pouvoir à Damas, c'est un sujet d'indifférence pour les États-Unis. Vous entendez ça ? Les Américains, ils s'en foutent ? Pas très bien. Dans ce cas-là, je vais accélérer un peu les choses, je vais appuyer sur l'accélérateur, et quoi qu'on en dise, un bon gaz de combat, comme le sarin, ah, ça a un effet.
Et son homme.
Ah, tout à fait. C'est pas symbolique. Ça a un effet très très sérieux, provoquer la panique. D'ailleurs, je vois qu'on commence à remplir à nouveau les autocars dans certaines des villes rebelles de Syrie pour déménager les populations, comme ça a été fait à Alep. Visiblement, l'effet de panique semble avoir joué. Non, du point de vue de Bachar, tout ça faisait sens. Je pense que Poutine, lui, était peut-être un peu moins heureux.
Un mot, Jean-Christophe.
Il y a une frange au sommet de l'État syrien qui n'est pas du tout content de voir les Russes en Syrie et qui a intérêt à durcir le ton pour obliger les Russes, peut-être, à se retirer si on passe la ligne rouge. Et il ne faut pas mésestimer cette possibilité.
Juste avant de partir en Turquie, François Hesbourg, qu'est-ce que c'est que cette énorme bombe américaine, la plus grosse non-nucléaire, qui a été larguée jeudi dans l'est de l'Afghanistan contre un réseau de tunnels abritant donc des combattants de l'État islamique. On parle d'une quarantaine de morts parmi les combattants djihadistes. Qu'est-ce que c'est ?
Bon, la bombe est réelle. Je suis d'ailleurs surpris qu'il y ait eu un tel tintamarre autour de cet engin, parce qu'elle pèse exactement le même poids et utilise le même explosif que celle qui avait été conçue et utilisée par les Britanniques et les Américains à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour détruire des cibles durcies comme les bunkers dans le nord de la France ou les viaducs en Allemagne. Notamment, il y a une bombe qui s'appelait le Grand Slam qui pesait exactement 10 tonnes et qui était chargée de
comme
TNT.
Celle-là, ouais.
Comme celle-là, ma science en la matière, j'ajoute tout de suite, elle est toute neuve. Et j'ai trouvé ça en regardant ce Wikipédia. Donc peut-être avant de s'exciter sur cette immense information qu'a été l'emploi de cette bombe, trois clics sur le mulot aurait peut-être réduit un peu l'importance de l'info.
Jean-Christophe Buisson.
Ce qui est spectaculaire, c'est que partout, il est précisé que c'est juste avant de passer au stade nucléaire, que c'est la bombe la plus puissante.
Non, mais on va pas utiliser la bombe nucléaire contre des grottes qui abritent des...
Non, mais c'est ça qui est impressionnant, c'est que partout, on explique que
c'est la bombe la plus puissante, etc.
La mère de toutes les bombes, dit-on.
Sauf que, par rapport même à la plus petite des armes nucléaires, on est à deux ou trois ordres de grandeur.
L'État islamique qui prend pied en Afghanistan... jusqu'à présent, il y avait les talibans. Ça y est, il se développe un peu plus.
Ah oui, bien sûr. Et là, l'utilisation de cette bombe contre des réseaux souterrains, ça fait sens.
On va continuer 7 jours dans le monde dans un instant, toujours avec François Hesbourg, conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique, Jean-Christophe Buisson, auteur de 1917, l'année qui a changé le monde. Erdogan en route vers le pouvoir absolu. Réponse ce week-end, ce dimanche. On en parle dans un instant sur BFM Business, à la télé et à la radio.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, 7 jours dans le monde pour revenir sur toute l'actu internationale de la semaine, sur BFM Business, à la télé et à la radio. Toujours avec nous, François Hesbourg, conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui vous propose comment perdre la guerre contre le terrorisme. Et puis Jean-Christophe Buisson, le directeur adjoint du Figaro Magazine, auteur de 1917, l'année qui a changé le monde. Vous avez encore vaguement 8 mois pour le terminer. Oui, bien sûr, c'est valable jusqu'au 31 décembre, c'est valable même tout le siècle. Scrutin essentiel donc ce dimanche en Turquie, pour ou contre l'extension des pouvoirs du président. Clairement, pour ou contre l'extension des pouvoirs, donc, est bien donnée à Erdogan, depuis 14 ans au pouvoir, chef du gouvernement, premier ministre, et puis président. 57 millions d'électeurs pour dire si, à terme, il pourrait être à la fois chef d'État et chef du gouvernement ensemble, puisque le poste de premier ministre serait supprimé, sans pouvoir être renversé, avec une capacité renforcée de nomination, notamment dans la justice. Si la réforme est votée, la réforme constitutionnelle, Erdogan pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2029. Il aurait un pouvoir de dissolution également du Parlement. Révision nécessaire, dit-il, pour stabiliser le pays, lutter contre l'instabilité gouvernementale. Et on a vu Erdogan mener campagne lui-même, quitte Attention, on en a souvent parlé dans 7 jours dans le monde, les pays européens. Souvenez-vous quand il était en meeting.
La Turquie n'est pas un pays que vous pouvez tirer, pousser, bousculer. Vous ne pouvez pas jouer avec la fierté de ce pays, renvoyer ses ministres et traîner ses citoyens dans la rue.
Oui, alors, est-ce que la partie s'annonce serrée pour le président Erdogan qui prend la parole? Allez, François Hesbourg, allez-y.
Oui. Il faudra attendre les résultats quand même. Et les élections en Turquie au cours des dernières années en général été au niveau des pourcentages, les marges ont été relativement étroites. Et dans un référendum, il suffit d'avoir 50% plus une voix ou à l'inverse, pour perdre le référendum. C'est à peu près aussi impossible de prédire l'issue de ce référendum.
Que nos élections.
Que le Brexit au Royaume-Uni l'an dernier. S'agissant d'un référendum. Ouais. Et j'ajoute qu'il n'y a pas de CSA en Turquie et qu'à peu près 90%, de l'exposition médiatique s'est faite en faveur du oui.
Et
un peu moins de 10% pour le non. On n'est pas exactement dans l'équité ou l'égalité des temps de parole. Et puis par ailleurs, la parole elle-même est fortement bridée puisque les politiciens les plus talentueux favorables au non ont été à peu près systématiquement poursuivis, notamment M. Demirtas qui est maintenant passible de 142 ans de prison. Ça vous la boucle quand même de façon assez sévère.
Campagne violente, on a reparlé de ces insultes vis-à-vis des Pays-Bas, de l'Allemagne également, ils ont été traités de nazis, de fascistes. Campagne très nationaliste aussi, très clivante. Qu'est-ce qu'il veut Erdogan exactement? C'est quoi le but ultime d'Erdogan, Jean-Christophe?
Alors d'abord, Erdogan a totalement changé. Il y a eu une mue de cet homme qui était un vrai réformateur, qui s'inscrivait tout à fait dans la lignée des dirigeants turcs, laïcs, nationalistes, un peu plus musulman que les autres, mais quand il est arrivé au pouvoir, il a effectivement poursuivi l'œuvre, notamment économique. Il y avait une possibilité d'intégration de la Turquie à l'Europe. Et puis il y a eu un basculement. Peut-être que c'est rattrapé par une forme d'hubris, j'en sais rien, d'autocratisme qui est une tendance internationale, comme vous le savez, en Europe, en Asie, en Amérique,
aux États-Unis.
Tendance qui a vu le jour il y a quelques années, et qui ne fait que se développer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la violence de sa campagne. La guerre qu'il fait aux Kurdes, c'est son contre-putsch de juillet dernier, il fait tout ça avec une telle... Et le nombre de meetings qu'il a fait, ça marque le fait que cet homme n'est pas du tout sûr de gagner.
Il est inquiet.
Il est très inquiet et il a raison d'être inquiet parce que la société turque n'est pas cette société que voudrait le nouveau Erdogan, c'est-à-dire... très islamisée. La société turque, elle a envie, il y a 70 ans de kémalisme, elle a envie de partager des valeurs qui sont aussi en partie des valeurs européennes. Ce n'est pas qu'un grand loup islamiste, la Turquie, avec une ambiguïté avec l'État islamique. Oui, ça existe, mais il y a aussi une population qui n'est pas du tout dans cette optique-là.
Et les incertitudes, il a raison, Jean-Christophe Buisson, François Hesbourg, il y a les incertitudes. Il faudra surveiller le vote kurde également, 20% de la population. Oui. Et puis on parlait de l'économie aussi. Est-ce que la population ne va pas sanctionner Erdogan quelque part pour les mauvaises performances de l'économie où on est passé de 4% de croissance en 2015 à 2,9% en 2016
oui, mais,
Le vote kurde, allez-y, vous voulez en parler.
Attention, d'abord le vote kurde, effectivement, la machine d'Erdogan a essayé d'accréditer l'idée que les Kurdes allaient voter oui. Et parce que il n'y a qu'Erdogan qui peut discuter
et avec eux, engager les pourparlers.
Et que si le non l'emportait, les Kurdes en prendraient plein la figure. Ce qui d'ailleurs peut-être pas faux qu'ils en prendraient plein la figure si le non l'emportait. Et ça, c'est une façon de préparer le bourrage des urnes. Je ne sais pas ce qu'il en sera, mais si on voulait les bourrer, c'est comme ça qu'on préparait l'opération. Et première chose. Deuxièmement, ce qui concerne les aspects économiques, il faut bien voir qu'il y a deux bourgeoisies et deux classes moyennes en Turquie. Il y a celle qui est de tradition kémaliste, pur sucre, euro-stambouliote, et qui vote systématiquement contre Erdogan. Et puis vous avez la nouvelle bourgeoisie et d'Anatolie, ce qu'on appelle la bourgeoisie blanche, qui a par ailleurs bénéficié des opérations dont on parle très peu chez nous, parce que ça c'est moins spectaculaire que les autres violations des droits de l'homme, et les opérations d'expropriation contre les gens soupçonnés de gulenisme. Le gulenisme, c'est l'islamisme anti-islam version Erdogan.
Et à l'origine de tous les maux selon Erdogan, du coup de 2016.
Vous avez 130 000 militaires, policiers, magistrats, et ainsi de suite, enfin, des gens relativement aisés en général, qui ont été privés de leur travail, mais en même temps, en grande partie, expropriés. Et c'est un petit peu comme la bourgeoisie en France, au début de la Révolution française, avec la dépossession du clergé et le transfert des biens nationaux vers la bourgeoisie naissante. Alors, ces gens-là, ils profitent très directement de la répression erdoganiste. Et c'est, autrement dit, baisse du taux de croissance, peut-être, mais quand vous venez de voir s'arrondir votre patrimoine parce que vous avez pu acheter à prix cassé le domaine machin-chose du professeur public, et ça aide à voter dans le bon sens.
C'est la lutte contre l'indécision.
J'ajouterais quand même deux éléments dans la défiance contre Erdogan. D'ailleurs, il y a une population qui souffre du système qui a instauré un système quasi totalitaire, vous l'avez dit. Il y a des dizaines de milliers d'arrestations de gens qui ont été chassés de leur travail,
50 000 arrestations
des droits de l'homme, d'une presse muselée,
130 000 licenciés.
Limoges, vous avez raison.
Et puis, d'un point de vue international, certains voient le mini renversement d'alliance avec la Russie, avec une défiance vis-à-vis des États-Unis qui abrite justement le fameux GUL, qui s'est fait jour, et un certain nombre de Turcs ne sont pas tout à fait d'accord avec l'idée de se réconcilier avec les Russes et de s'éloigner des Américains.
Alors, François Hesbourg, donc auteur de Comment perdre la guerre contre le terrorisme, toujours d'actualité malheureusement, allez voir ce livre qui était sorti l'an dernier, le terrorisme, Stockholm donc le week-end dernier, peut-être Dortmund donc, et puis l'Égypte bien sûr. Alexandrie, tentat au nord du pays dimanche dernier, le dimanche des rameaux, deux attentats en pleine messe, en pleine prière, contre des églises chrétiennes fréquentées par les Coptes, remplies évidemment ce jour de fête, un vrai carnage, plus de 40 morts. Se rescaper.
Il faut que la vérité soit dite le plus tôt possible. Nous voulons des actes concrets. Nous ne nous contenterons pas de paroles en l'air à cet égard. Où sont la sécurité et la sûreté promises ?
Attentat revendiqué par Daesh, trois semaines donc avant la visite du pape François, ce sera donc à la fin du mois d'avril. Plusieurs choses, Jean-Christophe Buisson, les chrétiens d'Orient, dont vous racontez le martyr régulièrement dans le Figaro magazine, ils sont encore une fois visés. Daesh avait publié, je crois que c'était en février, une vidéo appelant justement à tuer les Coptes. 10% de la population en Égypte, c'est-à-dire à peu près 10 millions. Les Coptes qui se trouvent, j'allais dire, sur place, sur le territoire égyptien, sur le sol, 600 ans donc avant le début de l'islam.
Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, puisque c'est l'apôtre Marc lui-même qui est venu évangéliser l'Égypte. Jusqu'au 7e siècle, avant que l'islam n'apparaisse, l'Égypte est chrétienne. Ça, on oublie parce qu'on est un peu auto-centré sur l'Europe, mais le christianisme est d'abord d'essence orientale avec l'Égypte, avec la Géorgie, l'Arménie, l'Éthiopie. Ces pays sont chrétiens bien avant nous, évangélisés bien avant l'Italie, bien avant la France. Donc effectivement, ils sont là, c'est un danger. Mais par exemple, dans le discours que tient ce rescapé, c'est très intéressant, c'est qu'il il pointe le problème de sécurité. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les Coptes d'Égypte, sous Nasser, sous Sadat et sous Moubarak, n'ont jamais été protégés. Ont toujours été les cibles, c'était un petit peu comme nous les juifs au Moyen-Âge, c'était toujours les boucs émissaires, et pas seulement des salafistes purs et durs et des frères musulmans, c'était toujours ceux qu'on mettait de côté, parce qu'ils sont une minorité, certes, 10 millions, mais c'est une minorité dans un pays de 92 millions d'habitants, 10 millions selon eux d'ailleurs, parce que l'État dit qu'ils sont 4 ou 5 millions, minimise sans cesse leur importance, et effectivement, là où je suis pas tout à fait d'accord avec cet homme, c'est que c'est une église de martyrs. L'Église, c'est-à-dire que les Coptes n'ont jamais pris les armes. Il n'existe pas de ministre de protection chrétienne en Égypte. C'est-à-dire qu'ils ont intégré l'idée d'être des victimes depuis des siècles et des siècles. Et c'est presque l'essence de cette Église copte égyptienne, d'être les victimes permanentes d'États soit autoritaires comme ceux de Sadat, Nasser, Moubarak, ou Morsi à fortiori, soit des islamistes comme l'État islamique aujourd'hui.
Cet appel lancé quelque part aux forces de sécurité, au gouvernement, le maréchal Sissi, qui a rétabli du coup l'état d'urgence pour 3 mois, le président égyptien.
Nous avons pris un grand nombre de mesures et surtout, nous avons déclaré l'état d'urgence pour 3 mois après avoir fait le nécessaire constitutionnel pour prendre cette mesure. Nous déclarons cet état d'urgence dans le seul but de protéger notre pays.
François Hesbourg, des aveux pour le maréchal Sissi qui avait promis le retour de la sécurité ?
Ah, écoutez, face au terrorisme djihadiste, il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas de sécurité absolue. Donc, Dieu sait, si je puis dire, que le général Sissi, le maréchal Sissi n'est pas mon chef d'État favori. Mais là, en l'occurrence, je ne suis pas sûr qu'il y ait de quoi lui jeter à lui la première pierre. Et deux choses sur cette affaire. Tout d'abord, Stockholm. Les églises coptes, peut-être l'autobus des joueurs
du Borussia.
Du Borussia Dortmund, et les djihadistes ratissent large dans le choix de leur cible.
La semaine avant, il y a eu Saint-Pétersbourg, le métro.
Avant, ils ratissent large géographiquement, ils ratissent large en termes de choix de cible, entre les transports en commun, les lieux de culte, les
stades de foot ou
les rues piétonnières, et ainsi de suite. Première chose. Deuxième chose, l'Égypte n'est pas un pays où l'État islamique gère un territoire en propre, en dehors de quelques zones dans le Sinaï.
Dans le Sinaï, oui.
Et pourtant, les djihadistes arrivent à réaliser ces attentats importants, des attentats lourds, beaucoup de morts, et contre des cibles très hautement symboliques. Et ce qui est une autre façon de dire que la chute de Raqqa, qui aura lieu, ne signifie pas, hélas, la fin du djihadisme. Si je rapproche ces deux éléments que je viens d'énoncer, c'est-à-dire le ratissage large par les djihadistes et d'autre part le fait que l'organisation ou les organisations concurrentes de Daesh, comme Al-Qaïda dans la péninsule arabique et ainsi de suite, et ces organisations vont continuer leur œuvre de mort. Donc malheureusement, la fin du califat ne signifiera pas la fin du djihadisme et de la menace, y compris chez nous.
Ouais, l'offensive sur Raqqa qui pourrait démarrer, dit-on, dans la deuxième quinzaine d'avril. Et puis en Irak, hein, l'État islamique qui ne contrôle plus que 7% du territoire. On parlait de 40% avant, oui.
Ces ratios, non.
Non, c'était des informations que je voyais cette semaine.
Non, mais l'information n'est pas fausse.
États-Unis.
Elle n'est pas fausse. Elle est inutile.
Bon.
Je veux dire, ça leur fait quoi aux Coptes en Égypte que de se faire
Bien sûr.
Ce serait 0%.
Mais tout ça pour aller dans votre sens, finalement, oui. L'État islamique affaibli en Syrie, en Irak, de toute façon, il multiplie ses actions ailleurs, bien sûr.
En tant qu'État, il fait banqueroute. En tant que menace, hélas, il continue de prospérer.
Jean-Christophe Buisson.
Un dernier mot pour recontextualiser ce qui s'est passé en Égypte. Le maréchal Sissi avait assisté pour la première fois de l'histoire du pays à la messe de Noël.
Exact.
Deuxième chose, dans 15 jours, le pape François doit venir en Égypte. Et ça, ce sont des éléments importants. Et la troisième chose à laquelle on peut relier ça, c'est-à-dire ce dialogue christianisme-islam, c'est que l'homme qui a empêché, le policier, qui a empêché que le patriarche d'Alexandrie, qui était dans l'église, soit tué, c'est un musulman. Donc c'est important parce que Daesh, l'État islamique, s'attaque aussi à tous les symboles qui laisseraient penser que l'islam et le christianisme peuvent peut-être s'entendre. Et ça, c'est très important à dire parce qu'on cherche en vin souvent l'islam des Lumières. L'islam des Lumières, il est dans ce policier musulman qui donne sa vie pour empêcher que le patriarche de l'église copte chrétienne d'Alexandrie soit tué.
À suivre sur BFM Business, la suite, la fin de 7 jours dans le monde avec ces manifestations violentes dans l'un des pays de l'Alliance bolivarienne, le Venezuela.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, encore pendant quelques minutes en compagnie de François Hesbourg et de Jean-Christophe Buisson. Avant de se quitter en évoquant le Venezuela, quand même un mot sur un retour, hein, François Hesbourg, celui de l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, hein, candidat à l'élection présidentielle le mois prochain, ce sera le 19 mai. Candidature surprise contre l'avis du guide suprême Ali Khamenei. Il va falloir encore une validation du Conseil des gardiens de la Révolution. On le croyait disparu. Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire? Il avait fait deux mandats à la tête de l'Iran. Hein.
Oui, ben, il vient
dans
se
le dernier, dans des conditions contestables, bien sûr.
Il vient se rappeler au bon souvenir des acteurs du système, pour employer un mot
d'actualité.
Et il ne faut pas oublier qu'Ahmadinejad était un électron libre par rapport aux dirigeants classiques de la révolution islamique en Iran. Et Ahmadinejad considérait qu'il avait sa ligne directe avec Dieu, qu'il n'avait pas besoin de passer par les clercs, par les imams et ainsi de suite. J'allais dire, en termes de politique, en termes strictement politiques, on pourrait comparer Ahmadinejad à un évangéliste américain par opposition à quelqu'un qui viendrait du Parti démocrate ou du Parti républicain américain. Donc Ahmadinejad, c'est un trouble le jeu. Je ne suis pas du tout sûr qu'il passe
la case de la présélection
pour cette raison.
Encore populaire ou pas dans les couches les plus défavorisées de l'Iran?
Il a toujours du monde. Il ne faut pas oublier qu'il a été le Chirac de Téhéran, le maire de Téhéran.
Ouais, on va le voir comme ça, le maire.
Non, mais sérieusement, il avait un peu comme Erdogan à Istanbul.
Oui, exact.
Il avait amené l'électricité, l'eau potable, les viabilisations et ainsi de suite dans les banlieues sud de Téhéran, là où habitent les pauvres, les gens qui n'ont rien, etc. Donc il y a une base populiste à Ahmadinejad. Alors qu'est-ce qu'elle représente en pourcentage aujourd'hui? Je ne saurais pas le dire, mais c'est quelqu'un qui est parfaitement capable de déplacer une foule.
Jean-Christophe Buisson, Le Figaro Magazine.
Mais il a une image de corrompu,
oui,
de fraudeur,
bah oui,
de quelqu'un qui a quand même fait baisser l'économie iranienne, sauf pour ces couches-là, et que par ailleurs, il se réclame le candidat plus ou moins du mouvement conservateur, alors que Ali Khamenei lui a déconseillé de se présenter, qu'il a annoncé sa candidature sur Twitter, qui est quand même interdit en Iran, et que les conservateurs, d'ailleurs, ont leur candidat Raisi, vraisemblablement, pour l'élection en mai. Donc, pour moi, c'est une vaste plaisanterie, et il ne passera jamais, effectivement, le cap de la candidature officialisée par
le Conseil des guides de la Révolution. Alors, l'Iran, qui est un pays observateur de cette alliance bolivarienne, vous savez, dont on parle beaucoup en ce moment, une organisation politique économique créée en 2004 par Chavez, par Castro, il y a 12 membres, des pays sud-américains, caribéens, et parmi eux, évidemment, le Venezuela. Et cette semaine, encore une fois, marquée par de nouveaux affrontements, notamment à Caracas, des anti-chavistes contre la police, il y a eu plusieurs morts dans ce pays, étranglé par la chute des cours du pétrole, par la crise économique, avec de fortes pénuries, avec une inflation à plus de 1000%, et surtout un déficit démocratique. Dites-nous tout le bien que vous pensez du Venezuela l'un et l'autre, François Hesbourg.
C'est grandiose. C'est impressionnant comment un pays avec, selon ses propres dires, les plus importantes réserves de pétrole du monde,
plus que l'Arabie Saoudite,
est arrivé à se plonger tout seul, sans l'aide de personne, dans une situation absolument catastrophique. Aucun de ses voisins ne lui a fait la guerre. Personne ne lui a fait de blocus. Bien sûr, les Américains n'aimaient pas bien Chavez et le disaient, mais il n'y avait pas d'acte d'hostilité. D'ailleurs, il n'y en avait pas besoin, parce que Chavez et son successeur Maduro faisaient exactement ce qu'il fallait pour dilapider l'argent facile des années où le pétrole était à 120-130 dollars le baril, et ils n'ont rien fait pour tenter d'atténuer le choc. Et lorsque les cours du baril
40,
se sont effondrés à 40-50. Le Venezuela, c'est une sorte de Zimbabwe de l'Amérique du Sud, et avec Maduro et son prédécesseur Chavez dans le rôle du dictateur Robert Mugabe. Je ne fais pas partie des admirateurs de ce régime ni de l'alliance bolivarienne.
Ouais, c'est vrai, à l'origine de la grogne, je parlais de déficit démocratique. Il y a eu quand même 15 ans d'inéligibilité infligée donc au leader de l'opposition, Enrique Capriles, hein, rival du président Maduro. Il y a des élections présidentielles prévues l'an prochain, Jean-Christophe Buisson.
C'est ça le problème. C'est évidemment un problème économique parce qu'on a une population qui meurt de faim. Ouais. Une population qui n'a plus de médicaments, qui n'a plus de produits de première nécessité.
Qui fait des queues devant les magasins pendant des dizaines d'heures pour avoir même un rouleau de papier toilette.
Exactement. Enfin bon, voilà. Il y a plus de classe moyenne. Tout ça a été détruit. Donc ça, c'est d'un point de vue économique. Mais d'un point de vue politique pur, c'est quand même très grave ce qui se passe. Il y a des morts, on en est à 5 morts dans ces manifestations, et qui ne sont pas qu'à Caracas, qui sont dans tous les états du Venezuela. Il y a une protestation populaire, tiens donc, et pourtant, ces gens-là, comme Chavez et Maduro, se réclament sans cesse du peuple contre les élites, contre les oligarchies économiques, financières. Mais c'est le peuple, aujourd'hui, c'est les centaines de milliers de personnes qui manifestent tous les jours contre cette situation, contre la violation, effectivement, de la démocratie, avec Capriles qui est inéligible pour 15 ans, avec des magistrats qui s'octroient des pouvoirs à la place de l'Assemblée nationale qui a élu l'opposition majoritairement. Donc c'est ça, il y a vraiment un déficit démocratique et économique dans ce pays qui est absolument catastrophique et qui ne fait que s'amplifier dans les jours qui viennent. Il y a une grande manifestation prévue le 19 avril, la mère de toutes les manifestations, comme l'annonce l'opposition, qui peut se finir tragiquement.
Ouais. Pourquoi cet amour vis-à-vis du chavisme, du castrisme, bon, bien sûr, mais du chavisme en Amérique du Sud ou ailleurs, François Zemmour ?
Il faut poser la question aux gens qui prétendent porter cet amour. Ouais. Moi, je ne suis pas qualifié pour démonter les mécanismes psychologiques et mentaux de ces admirateurs. En Amérique latine, bien entendu, ils ont disparu. Les élections en Argentine, au Brésil, les changements ne sont pas allés exactement dans le sens du bolivarisme, ni au Pérou d'ailleurs. Il reste l'Équateur, mais à part ça, on ne voit plus grand monde. Je ne suis pas sûr que l'Iran se souvienne vraiment qu'ils sont observateurs dans l'alliance bolivarienne. Alors les Russes suivent ça aussi d'un œil un peu à la fois intéressé et inquiet. Intéressé parce que ça peut faire une plateforme militaire, le cas échéant, puisque les Russes avaient envoyé il y a 2-3 ans quelques bombardiers pour montrer qu'ils savaient faire. Mais en même temps, les Russes n'ont visiblement pas suffisamment confiance dans la stabilité de cette gouvernance pour tenter réellement de s'impliquer localement. Mmh.
C'est fini pour 7 jours dans le monde. Très bon week-end de Pâques à tous. Je rappelle, si vous avez des idées de lecture, des envies de lecture, François Hesbourg, le conseiller spécial de la Fondation pour la Recherche Stratégique, qui vous propose « Comment perdre la guerre contre le terrorisme ». Et puis Jean-Christophe Buisson, c'est le directeur adjoint du Figaro Magazine. 1917, l'année qui a changé le monde. Vivement le week-end prochain.
BFM Business, 7 jours dans le monde.